Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bienvenue à ce journal présenté par Belinda Bossouma. Tout de suite, le sommaire. Plus d'une centaine d'enfants souffrent d'infections respiratoires aiguës à Walindubindi dans l'Ituri. C'est ce que rapporte le médecin directeur du centre hospitalier d'Aveba. Le docteur C. Moussangoura attribue cette situation à la vulnérabilité des parents due à l'insécurité dans la zone. Mois de mars, mois de la femme, le lancement officiel des activités y afférents seront données à partir de Mbandaka. Pour ce faire, la ministre du genre du gouvernement central est attendue ce lundi au chef-lieu de l'Équateur. Et toujours dans le cadre du mois de mars dédié à la femme, nous recevons ce midi la jeune entrepreneure Nadine Niavingi, responsable du restaurant Maison Béni à Béni. Elle nous parle des difficultés d'entreprendre dans la région de Béni au regard de l'insécurité dans cette région. Madame, messieurs, bonjour. Nous commençons par l'Ituri. Des nombreux enfants souffrent d'infections respiratoires aiguës dans la chefferie de Walindubindi, territoire d'Irumu. Selon le médecin directeur du centre hospitalier d'Aveba, plus de 220 cas ont été enregistrés en janvier dernier dans cette structure sanitaire, dont certains ont déjà développé l'asthme. Il attribue cette situation à la vulnérabilité de la population face à l'insécurité dans la zone. Reportage de Isaac Remoyope.
Cette structure sanitaire reçoit chaque mois environ 1800 malades, composés essentiellement des enfants. En janvier dernier, environ 300 cas de paludisme et 224 cas d'infection respiratoire aiguë ont été enregistrés chez les enfants dans cette structure sanitaire. Son médecin directeur redoute que cette situation ne s'aggrave pendant la période des pluies. Le docteur C. Moussangoura indique que la plupart des parents, paupérisés par la guerre, n'arrivent pas à acheter des habits pour protéger leurs enfants contre le froid. Beaucoup de ménages n'ont pas de couverture. Il ajoute que sa structure ne dispose pas d'appareils respiratoire pour la prise en charge de ses enfants, dont certains sont devenus asthmatiques. Il lance un appel au gouvernement et aux humanitaires.
L'infection respiratoire, c'est une monnaie courante pour nous. Tellement il fait froid, que les enfants ne sont pas bien vêtus dans la soirée, il fait froid, ça peut affecter leurs poumons et les thorax, provoquer la pneumonie. L'asthme, il y en a, tel que maintenant nous avons des malades asthmatiques à l'hôpital. S'il y avait un partenaire disponible pour leur prise en charge, ça serait une bienvenue pour nous.
Pour rappel, cette structure bénéficiait de l'appui de certaines organisations internationales. Mais depuis environ un mois, leurs projets ont pris fin, ce qui risque d'aggraver la situation des enfants dans la zone. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Sud Kivu, le syndicat des enseignants de la partie nord du territoire de Kabare alerte sur la résurgence d'une maladie inconnue dans la zone minière de Luhihi. Certaines écoles enregistrent la baisse de la fréquentation scolaire des élèves par crainte de se faire contaminer. Le médecin chef de zone de santé de Katana apaise la population. Nous y reviendrons. Dans la province du Bas-Uele, la gouverneure intérimaire a lancé officiellement samedi la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Une occasion pour Ruth Badouli d'appeler ses administrés venus nombreux à l'esplanade de la mairie à utiliser correctement ces outils afin de lutter efficacement contre le paludisme. Le point avec Jacques Moukonkole.
Plus de 830 271 moustiquaires seront distribués gratuitement au cours de cette campagne à 293 489 ménages dans cette entité. Dans son message adressé à la population à cette occasion, Ruth Badouli exhorte ses administrés à installer correctement ces intrants et surtout à dormir sous ces moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Pour sa part, le représentant du directeur du programme national de lutte contre le paludisme a déclaré que la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action est un outil économique le plus recommandé dans la prévention multiple. Elle a l'avantage de refouler ou de tuer les moustiques porteurs du paludisme pour protéger les dormeurs. Par ailleurs, dans un point de presse tenu en marge du lancement de cette campagne, l'autorité provinciale du Bas-Uele s'est engagée à assurer la continuité des services de prise en charge du paludisme dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La distribution dans les sites fixes sera remplacée par la stratégie porte-à-porte, a-t-elle indiqué. Ruth Badouli a enfin promis des sanctions exemplaires à tout agent coupable de détournement, vol ou vente illicite de ces moustiquaires. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Merci de nous écouter à Mbandaka, chef de la province de l'Équateur. Cette ville recevra la cérémonie officielle de la célébration de la Journée internationale de la femme ce 8 mars, demain donc. Voilà pourquoi la ministre du genre du gouvernement central est attendue dans la ville ce lundi. Elle va conduire une forte délégation en vue de lancer à partir de Mbandaka les activités liées au mois de la femme à travers le pays. À Zongo aussi, dans le sud Ubangi, les femmes congolaises vont célébrer leur journée avec faste en compagnie de leurs sœurs de Bangui, la capitale centrafricaine. Plus de précisions avec Paul Richard Malingela.
La ville de Mbandaka accueille dès ce lundi une forte délégation nationale conduite par la ministre congolaise du genre. Elle vient lancer les festivités et activités du mois de la femme en RDC. Le programme prévoit pour ce mardi un défilé de toutes les forces vives féminines devant la mairie. Également une foire au parc des jeunes où plusieurs femmes vont exposer leurs produits et activités de survie. La veille déjà, Mbandaka est en ébullition. L'esplanade de l'hôtel de ville est en pleine érection de la tribune officielle pour ce défilé. On constate l'embouteillage des femmes dans des boutiques et magasins de la place, pris d'assaut pour préparer leurs toilettes. Les tissus d'uniformes leur ont été distribués par les associations et services, d'autres s'en sont procurés par leurs propres moyens. Femmes politiques, journalistes, policières, opératrices économiques, paysannes, militantes des droits de l'homme, élèves, filles, toutes font encore la queue chez des couturiers. Personne ne veut manquer le rendez-vous de ce 8 mars 2022, disent-elles. Dans le sud Ubangi, la ville de Zongo n'est pas en reste. La mairie a prévu d'organiser un défilé et une conférence avec la participation active des femmes de Bangui. Elles seront conduites par le maire de la capitale centrafricaine dans le cadre du jumelage entre les deux villes, a indiqué le maire de Zongo, Michel Siazo. Mbandaka, Porsche Malingue, la radio Okapi.
Cap à présent vers le Kasaï oriental pour parler de Madame Christelle Moudia, l'une des femmes qui roule la moto en Mbujimayi, un moyen de transport presque exclusivement consacré aux hommes il y a moins de 10 ans. Étudiante, mariée et mère de quelques enfants, Christelle Moudia dit avoir appris à conduire la motocyclette par son mari il y a 7 ans. 2 jours ont suffi pour cet apprentissage au niveau du terrain de l'hôpital Bonzola. Elle utilise sa moto pour se rendre à l'université, accompagnée de son mari au travail et ses enfants à l'école. Le spectacle offert le week-end dernier par Christelle sur la motocyclette au stade Kachala Bonzola lors de la course des femmes motocyclistes organisée par la fondation Panda Wetu lui a permis d'être classée meilleure femme motocycliste de Mbujimayi. Esther Ndalafina est allée à sa rencontre.
Âgée d'une 20aine d'années, Christelle Moudiabwana est mère de 3 enfants. Étudiante mariée, Christelle Moudiabwana a été poussée par son mari à apprendre à conduire la motocyclette.
Il y avait certains jours, on partait à l'église et mon mari n'était pas là. On a cherché les chauffeurs taxi-moto, on l'a pas trouvé. On est parti à pied. Non, il m'a dit non, je vais t'apprendre la moto. Je n'avais pas peur. Moi, je connaissais déjà le vélo. Le problème est en est qu'il faut seulement savoir les codes de la route.
Avec sa moto, Christelle a réduit les coûts de transport de la famille.
J'ai l'habitude d'accompagner mon mari au service. J'accompagne mes enfants à l'école des étudiants, à l'école du poste. Aller tout comme retour et après, je pars aussi aux études. J'ai fait hier au marché. Je pars aussi avec ma moto. J'ai fait les achats.
Qui ne risque rien à rien, dit-on. Christelle n'a pas tenu compte de sa taille. Les blessures d'apprentissage l'ont poussée à maîtriser le volant.
J'ai regardé ma taille. Je suis mesurée que non, je ne peux pas arriver à rouler la moto. Et mon mari m'a dit que non, vous êtes capable. En apprenant à conduire la moto, suis tombé. J'ai eu une blessure là au niveau de la main. Ça m'a poussé vraiment à connaître toujours la moto.
Lors de la course organisée ce samedi au stade Kachala Bonzola par la fondation Panda Wetu, Christelle Moudiabwana a offert un spectacle qui a convaincu la foule.
Tout ce que j'avais fait là, des démonstrations, danser sur la moto, j'ai laissé les mains là et la moto partait de soi-même. Les gens ont applaudi pour moi, je suis sortie première.
Elle invite ainsi les autres femmes à briser la peur afin de se rendre utile dans la société. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Et du côté de Butembo, Nord Kivu, de la commercialisation des poissons, un métier exercé majoritairement par des femmes, mais depuis près d'une année maintenant, cette activité commerciale devient de moins en moins rentable à cause de l'insécurité qui secoue les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, où les marchands se ravitaillent à partir du lac Albert en Ituri et du lac Édouard au Nord Kivu. Pour essayer de sauver leur métier, de nombreuses femmes se sont tournées vers la vente des poissons Chinchard, appelé Thompson. La coopérative des dépositaires des poissons de Butembo, Lubero, Codépol, plaide ainsi pour le rétablissement de la paix dans la région le plus vite possible. Florida Kahambo a jeté un coup d'œil sur l'état des lieux de ce métier dans le cadre du mois de la femme. Reportage.
Sur les marchés locaux, les dépôts des poissons sont presque vides. D'après Arlette Tongo, secrétaire exécutive de la Codépol, avant que la situation sécuritaire se dégrade, cette structure apportait 10 tonnes de poissons par semaine à partir du lac Albert dans l'Ituri. Aujourd'hui, elle n'apporte même pas une tonne par semaine. Nos lieux d'approvisionnement sont insécurisés. En attendant les convois, le peu de poissons que nous avons eu sur le lac Albert arrive ici en étant déjà pourri. Aujourd'hui, nous n'amenons qu'une demi-tonne. Avant, nous amenions 10 tonnes par semaine en provenance de Tchomia. Maintenant, du côté de Kavinyonge, là, n'en parlons même pas. Pour contourner cette situation, nombreuses femmes ont choisi de vendre des poissons chéchards importés de l'Asie. Louange Kavira, l'une des vendeuses, indique que la vente des poissons chéchards est plus rentable que les poissons provenant de Kavinyonge sur le lac Édouard. La vente du Thomson est plus rentable que les poissons qui viennent de Kavinyonge parce qu'on y gagne quand même un peu d'argent. Sur les poissons de Kavinyonge, on y gagne un bénéfice de 100 francs ou 200. Mais les Thomson, on peut gagner par exemple 5 000 ou même 10 000 francs. Notons que plus de 10 femmes membres de la Codépol sont décédées dans des attaques de véhicules par des ADF depuis l'année passée. Butembo, Florida Kaambu. Radio Kapi.
Dans l'actualité, sachez aussi que plusieurs institutions universitaires procèdent ce lundi et demain mardi à la remise et reprise entre anciens et nouveaux comités de gestion. La remise et reprise intervient après la signature d'un nouvel arrêté par le ministre Mohindo Nzangi à l'issue de l'harmonisation des vues avec le Premier ministre qui avait demandé la surséance du précédent arrêté signé en décembre dernier. À Kinshasa, les établissements concernés sont notamment l'UPN, l'IFASIC, l'ISP Gombe, l'IEC Gombe. D'autres institutions universitaires sont concernés à l'intérieur du pays, comme l'université de Lubumbashi et l'université de Kisangani. Justement, dans la province de la Tshopo, les professeurs des universités et instituts supérieurs de Kisangani saluent la décision de la suspension de leur grève, décision annoncée jeudi dernier par le réseau des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, RAPUCO. Cependant, après une évaluation de la situation ce week-end, la plupart ont évoqué plusieurs contraintes ne pouvant permettre la reprise immédiate des enseignements. Pour le professeur Jean-Pierre Lifoli de l'université de Kisangani, par exemple, il y a des préalables administratifs et techniques à remplir avant toute reprise des cours. Le professeur Lifoli exprimé à ce titre, à titre personnel, allais-je dire, au micro de Jacques Moukonkolé.
On a totalisé aujourd'hui 2 mois sans que le cours ne puisse commencer. Maintenant, pour commencer, cela demande quand même qu'il y ait un travail administratif qui doit être fait d'abord au niveau des départements pour préparer les charges horaires et aussi toutes ces programmations des réunions-là vont faire en sorte que nous puissions perdre un peu de temps sans que les étudiants puissent réellement être dans les auditoires. Les étudiants eux-mêmes, puisqu'on a fait 2 mois sans qu'il y ait début de cours, ils ne sont pas sur place dans leur site. Il doit falloir aussi un peu de temps pour que les étudiants puissent regagner les sites où se trouvent leurs institutions pour commencer les cours. Puisque sinon, ils risquent d'être pénalisés. Puisque s'ils n'ont pas suivi les 3/4 des cours, ils risquent d'office d'être ajournés. Nous allons commencer cette fois-ci dans les classes de recrutement avec le système LMD. Sur les 5 mois, nous avons déjà consommé 2 mois sans qu'il y ait enseignement. Cela suppose que le ministre des tutelles puisse aussi publier un calendrier aménagé qui doit tenir compte de toutes ces contraintes-là. Et tout ça va faire en sorte que les gens qui sont en train de continuer les négociations puissent aussi avancer avec leurs négociations pour qu'à la fin, on puisse nous présenter les résultats concret de ce qui a été fait. Je pense que tous ces temps-là, si vous l'additionnez, vous verrez effectivement que les cours vont effectivement commencer à la fin des travaux de la commission paritaire.
Province du Maniema, le taux de transition des filles du primaire vers le secondaire est faible dans la province éducationnelle Maniema 1. Téné, 36% de filles ne poursuivent pas leurs études au niveau secondaire, constat du directeur de cette province éducationnelle. Dans une interview à Radio Kapi ce week-end, Yoy Bokete justifie ce phénomène par le fait que certains parents préfèrent scolariser les garçons au détriment des filles. Il sollicite l'implication de tous pour l'organisation des campagnes de sensibilisation à la communauté pour la scolarisation des filles. Yoy Bokete et Jean-Pierre est au micro de Florence Kizalunga.
Le problème que nous avons trouvé, c'est le problème d'abord de la scolarisation de la fille. Et ce problème-là trouve sa cause, c'est seulement parce que il y a des parents qui ne veulent pas scolariser les filles qui ont réussi au niveau primaire pour le niveau secondaire. Donc le taux de transition du primaire au secondaire est un peu faible au niveau de la province éducationnelle Maniema. Et pourquoi? Parce que on scolarise plus les élèves garçons au détriment des élèves filles. Et il y a ces élèves filles maintenant à base de la pauvreté de leurs parents. Certaines se trouvent dans la pêche, certaines se trouvent dans les carrières minières et certains se trouvent dans les petits commerces. Et c'est pour cette raison nous voudrions qu'avec tous les pouvoirs publics, avec le gouvernement provincial, avec les partenaires techniques, que nous puissions nécessairement entreprendre des campagnes de sensibilisation à la communauté pour que nous puissions aussi scolariser les enfants filles. Parce que ce n'est pas seulement les garçons qui réussissent, donc que ce soit les filles et les garçons, ils sont tous importants dans la vie.
Actualité internationale.
La part de 6 millions de victimes du COVID-19 dans le monde devrait être franchie ce lundi. C'est ce qu'indique le dernier rapport de l'université américaine Johns Hopkins, rappelant que la pandémie continue de toucher la population mondiale malgré la reprise des voyages, la réouverture des bureaux et l'annonce dans certains pays du retrait des masques. L'Afrique du Sud figure parmi les pays les plus durement touchés avec près de 100 000 victimes. L'amitié entre Pékin et Moscou est solide comme un roc, a déclaré ce lundi le ministre chinois des Affaires étrangères. C'est en dépit de la condamnation par plusieurs pays à travers le monde de l'invasion russe en Ukraine. L'amitié entre les deux peuples est solide comme un roc et les perspectives de coopération future sont immenses, a déclaré devant la presse le ministre chinois Wang, précisant que la Chine était prête à participer en cas de besoin à une médiation internationale pour résoudre le conflit en Ukraine, rapporte l'AFP.
L'invité.
Il s'agit de Nadine Nyavingi, jeune entrepreneur responsable du restaurant Maison Béni. Maison Béni à Béni, diplômée en administration et gestion, Madame Nyavingi a d'abord travaillé dans le monde humanitaire avant de s'y lancer dans l'entrepreneuriat. Elle nous parle ici des difficultés d'entreprendre dans la région de Béni au regard de l'insécurité. Elle répond aux questions de Sadiq et Aboubakar.
Nadine Nyavingi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes diplômée en administration et gestion, mais aujourd'hui vous vous retrouvez dans un restaurant. Comment expliquer cela?
Bien sûr, comme tu l'as dit, je finis en 2020 à Bounia. Après mon diplôme de licence, j'avais un contrat chez l'Africa. Je travaillais pendant 6 mois et je me suis dit non, comme je ne veux pas rester à la maison, je peux juste demander la permission à mes parents de gérer le restaurant.
Donc le restaurant existait avant, c'était un restaurant familial?
Oui, effectivement, c'était juste un restaurant familial. Même nous, quand on était petites, on a travaillé dedans. Bon, le restaurant était le restaurant Maléwa, mais c'est après, quand je pris la responsabilité du restaurant en question, c'est là que j'ai dit non, je peux le changer et je peux le faire un restaurant classe buffet, quoi. Si je pris cette décision, c'est parce que j'avais des ambitions, j'avais des objectifs à atteindre. Moi, je ne me suis pas limitée en disant que non, je peux rester seulement dans le monde humanitaire. Bien sûr, le monde humanitaire, c'est un bon monde que tout le monde peut rêver quand on a fini les études. Trouver un emploi dans une ONG, c'est un rêve de tous, je pense. Mais moi, je veux que je resterai une salariée, quoi. Alors, je me suis dit non, bien sûr, je peux me lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, et j'ai trouvé que c'était un monde bien, parce que là, je deviens vraiment...
Boss de toi-même.
Je deviens boss de moi-même, donc je ne dépends pas de gens, je dépends de moi.
Vous avez relancé le restaurant en 2021. Jusqu'à ce niveau, est-ce que vous pensez que vous avez réussi ou bien il y a trop de difficultés qui ne vous permettent pas d'avancer?
Voilà, sans mentir, j'ai traversé de moments très très difficiles jusqu'à ce que moi-même, je me suis dit que je vais abandonner.
Franchement,
je me suis dit vraiment je vais abandonner parce que tout au début, quand j'avais lancé le restaurant, c'était le 2 août 2021. Et juste dans le premier mois, tu sais, les gens aiment les trucs nouveaux, quoi. Quand ils arrivent, oh, on a changé, c'est bien, c'est cool. Ils ont aimé, ils ont vraiment aimé. Mais
parce que l'adresse...
J'ai juste rénové, mais l'adresse était connue. Au début, les gens m'ont encouragé, ils ont dit, c'est un bon truc que tu fais, c'est très bien, c'est classe. Ils sont venus tout au début, mais à un certain moment, bon, je sais pas, les gens ont disparu. Bon, j'ai pas compris, en fait, mais les grands défis auxquels je fais face, c'est que beaucoup de mes clients étaient des gens qui voyagent. Donc, le voyageur qui quitte, qui s'engagne, par exemple, Bounia, il passe par Béni pour aller à Boutembo. Il peut venir, donc, il y a un restaurant ici, on peut manger vite, vite.
C'était de la clientèle.
Oui, c'était une bonne clientèle que j'avais tout au début. Mais quand il y avait le problème de
sécurité,
bien évidemment, vraiment, les gens fuient parce que la plus grande clientèle, donc à 80%,
c'était de voyageurs. Mais il y a plus assez de voyageurs comme avant.
Oui, c'est ça.
À cause de l'insécurité sur la route.
Oui, voilà, exactement. Alors, c'est là, vraiment, ma déséquilibre. Tout en espérant que un jour tout va changer. Alors, on reste là. Mais seulement, j'ai vraiment une très grande ambition pour ces restaurants-là.
Et comment comptez-vous surmonter ces défis? Parce que, on vit avec.
Ah oui, c'est vrai. Nous vivons dans l'insécurité, mais ce que je voulais, en fait, ne pas désespérer. Je compte d'ailleurs améliorer encore beaucoup plus mon restaurant parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que le restaurant, il est bon, mais il est un peu caché dans l'hôtel et il n'y a pas beaucoup de visibilité. D'ailleurs, quand ils arrivent là-bas, ils sont ébahis.
Alors, vous êtes une jeune dame, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Avec beaucoup de difficultés que vous rencontrez, mais vous restez courageuse et déterminée. C'est quoi le secret de cette énergie?
Waouh! Moi, je dis comme tout le monde, hein, l'énergie vient de Dieu, le courage vient de Dieu, quoi. Donc, quand on s'est mis en Dieu, on met toute sa confiance en Dieu, on sait qu'on ne sera pas déçu, bien sûr. Mais aussi, si on veut évoluer, il faut tenir toujours, quelles que soient les difficultés. Même le grand homme qui est émergé, ils ont atteint beaucoup de difficultés. S'il t'est parlé, tu vas être étonné. Donc, je ne peux pas ne pas être courageuse, tout en espérant qu'un jour, tout ce qui se passe à Béni va finir. Ce n'est pas que les deux filles sont finies, non. Je suis toujours dans beaucoup de difficultés et j'ai fait appel aux gens bien, qui nous écoute à ces moments. Vraiment, nous avons besoin de vous qui aimeriez quand même nous aider. Alors, que le Seigneur vous bénisse.
Nadine Nyavingi, c'était un plaisir. Merci.
Merci à vous aussi, Monsieur Aboubakar.
Notre invitée est une jeune entrepreneur responsable du restaurant Maison Béni à Béni. Elle s'entretenait avec Sadiq Aboubakar. C'est la fin de ce journal, coordonné par Élisée Chikotachi Vuita. Supervision de Martin Sebujangwe. Willem Lungamba était à la technique et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci.